Avant de commencer, je vais donner le calendrier exact des prochains et derniers cours de cette année. Il y aura, avant les vacances de Pâques, encore un cours, mercredi prochain, 23 mars. Ce sera le dernier du trimestre. 30, oui, vous avez raison. C'est aujourd'hui le 23. Donc le 30 mars, le dernier cours du trimestre, ensuite les vacances, et après les vacances, il y aura encore trois cours. Le 20 avril, le 27 avril et le 4 mai. Et ce sera fini pour cette année. Aujourd'hui, je vais m'occuper en principe de trois figures, peut-être un peu abstraite, c'est le hasard de l'alphabet. La première s'intitule « marginalité » au pluriel. En Occident, et surtout à partir du Xe siècle de notre ère, il y a eu une tentation, que j'ai signalée à plusieurs reprises, de l'idiorhythmie. Tentation de l'idiorhythmie dans les milieux monastiques, dont la forme exemplaire est celle du mont Athos, qui s'organise à cette époque, c'est-à-dire au Xe siècle, puisqu'il y a quelques années, on a fêté le millénaire du mont Athos. C'est-à-dire que on reconnaît le droit pour certains, c'est-à-dire la société ecclésiale, reconnaît le droit pour certains individus ou pour de très petits groupes d'individus de vivre à part, mais au sein de la communauté. C'est ça qui est important. C'est l'organisation des skites, S-K-I-T-E-S, que j'ai signalé, du mont Athos, où, disons, de très petits groupes de moines vivent en idiorhythmie, mais non loin des grands monastères, ou le cas encore, plus tard, des chartreux, où, puisque souvent nous faisons ici référence à des exemples littéraires, nous voyons par exemple au début des frères Karamazov de Dostoïevski, le Starets Zosim, qui fait partie d'un ministère, mais qui vit un petit peu à part, qui a une petite maison à part. Par conséquent, l'idiorhythmie se présente toujours comme une expérience de marginalité. Les idiorhythmiques sont des marginaux. Mais, du moins en Occident, cette marginalité est elle-même une marginalité seconde qui est décrochée par rapport à une première marginalité, qui est celle du cénobitisme lui-même, en général, qui constitue donc une première marginalité. Donc, en fait, dans le milieu monastique, nous avons deux marginalités, une marginalité communautaire, et par rapport à cette première marginalité, une seconde marginalité qui est idiorhythmique. Un mot sur la première marge, c'est-à-dire le cénobitisme, la vie en commun des moines dans des monastères, dans des couvents. Il faut toujours se rappeler, partir de choses très simples, pendant un certain temps, pendant trois quarts de siècle, le christianisme a été persécuté dans le monde occidental et proche-oriental. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les chrétiens étaient en dehors du pouvoir. Et donc la marginalité des chrétiens était une marginalité douloureuse, dolosive. Elle s'est incarnée dans cette figure historique, dans ce type historique, le martyr, les martyrs. Et puis, vous le savez, à la conversion de Constantin, il y a eu renversement du pouvoir, les chrétiens sont passés du côté du pouvoir. Et à ce moment-là, il y avait des avantages temporels sous forme d'honneurs, de charges, d'argent à être chrétien. Et par conséquent, il y a eu immédiatement reconstitution à l'intérieur même du pouvoir de zones marginales séparées du monde, séparées autant que possible du pouvoir, à savoir les couvents. Eh bien, le moine est à ce moment-là, devient à ce moment-là, le successeur et pour ainsi dire l'hypostase, la figure incarnée du martyr. Enfin, les moines sont en réalité les successeurs des martyrs en tant que suivant la même filière de marginalité. Le moine est en effet, à la lettre, un individu d'exception, même lorsqu'il vit en communauté. C'est un individu d'exception d'abord spirituellement, puisqu'il y a en lui une sorte de concentration dense du sacré dans des individus d'élite, et le moine est aussi un individu d'exception temporellement. En effet, au IVe siècle, par exemple, la condition monastique, c'est-à-dire le fait d'être moine, est liée, dit-on, car bien sûr tout cela n'est pas de moi, je ne suis pas historien, la situation, la condition d'être moine est liée à une conception aristocratique de ce qu'on appelle en latin l'osium, le loisir, le non-travail, si vous voulez. Car le moine, en effet, est dans un état de vie non productif économiquement, il ne produit rien économiquement, surtout au début, où il n'est pas censé devoir travailler manuellement, mais ceci est compensé par le fait qu'il est censé être surproductif spirituellement et ou intellectuellement, comme par exemple ensuite chez les bénédictins, où il y a une véritable production intellectuelle par la copie massive des livres, n'est-ce pas, avant l'imprimerie. Je dirais que ceci atteste le fait que le symbolique, le religieux, c'est-à-dire le symbolique, est un luxe. La société vit le symbolique à la fois comme un luxe, puisque le symbolique n'est pas pris dans un procès de production économique, mais que ce luxe, en même temps, paradoxalement, elle le vit ou elle le déclare comme nécessaire à toute société. Car sans symbolique, l'homme meurt. Depuis, ceci est une digression, n'est-ce pas ? Depuis qu'on s'occupe de problèmes, depuis qu'on a créé la catégorie parapsychanalytique de psychosomatique, la psychosomatique, bon, il y a eu des efforts de théorisation de ce que c'est que la psychosomatique ou les maladies psychosomatiques. Et l'une de ces théories, qui me paraît pour moi en tout cas très séduisante, c'est que la maladie psychosomatique vient au corps, au sujet, précisément par un défaut de symbolisation. C'est quand tel sujet ne peut pas symboliser qu'il devient malade psychosomatiquement. À l'origine de bien des maladies dites psychosomatiques, on trouve un défaut de symbolisation. Ce qui prouve deux choses, si vous voulez, c'est que d'une part, en poussant les choses jusqu'au bout, ce défaut de symbolisation, ce défaut du pouvoir de symboliser conduirait l'homme à mourir par le degré de la maladie. Si l'homme ne peut plus symboliser, il meurt. Et d'autre part, sur le plan de la thérapeutique, on peut être amené, pour guérir des maladies psychosomatiques, à redonner au sujet qui ne peut plus symboliser un pouvoir, une capacité de manipulation symbolique. Autrement dit, l'une des voies thérapeutiques très acceptables, ce serait d'arriver à névroser le sujet, puisque la névrose est une manipulation, c'est une mise en scène hyper symbolique, enfin de haute symbolisation. Eh bien, pour permettre à l'homme, au sujet, de ne plus être malade psychosomatiquement, il faudrait arriver à le névroser, à lui donner une bonne névrose, et à ce moment-là, il n'aurait plus ses ulcères d'estomac, ou ses migraines, ou son asthme. Alors, il se peut très bien que la société pressente tout cela, et que pour satisfaire à l'exigence vitale de l'espèce, qui est l'exigence du symbolique, l'homme en tant qu'espèce est un animal qui symbolise, eh bien, pour cela, il est possible que la société provoque elle-même la mise en marge d'une petite partie de ses membres, hein, et crée ce que j'appelle le luxe nécessaire du symbolique. Ce serait une thèse qui rejoindrait assez ce que Lévi-Strauss a dit du sorcier dans les sociétés ethnographiques. Il l'a dit dans l'introduction à l'anthropologie structurale, n'est-ce pas? Pour lui, le sorcier est une sorte de point de la société sur lequel la société focalise, centralise et fixe la maladie ou l'anomie comme précisément un abcès de fixation. Alors, il se peut très bien que la création de marginalité monastique ait répondu à ce besoin de créer des abcès de fixation du symbolique, c'est-à-dire des densités très fortes du religieux. Voilà pour la première marge, qui est la marge cénobitique. Mais, comme je l'ai dit, dans cette marge, il peut y avoir une seconde marge intérieure, qui est l'idiorythmie. Vous savez que, historiquement, c'est-à-dire diachroniquement, l'idiorythmie, nous l'avons vu plusieurs fois, est la première marginalité en date, n'est-ce pas ? Elle est antérieure au cénobitisme. Les anachorètes, les ermites, se mettent en marge de la société, en marge de l'État surtout, bien avant qu'il n'y ait des monastères. En Égypte, par exemple, là où l'érémitisme a été le plus fort et le plus immédiat, eh bien, les anachorètes, qui étaient-ce au début? C'était surtout, d'abord et surtout, des individus en rupture de fisc, ils ne voulaient pas payer d'impôts, et en rupture de service militaire. Ce sont les deux déterminations objectives de marginalité. C'est-à-dire ne pas payer les impôts, échapper au service militaire. Et beaucoup d'anachorètes venaient de ce refus de s'intégrer à ces deux formes particulièrement oppressives de l'État. Alors, l'idiorythmie est devenue une seconde marginalité structurellement plus tard, c'est-à-dire qu'il est devenu une marginalité dans la marginalité conventuelle. Par quel processus, ou au moins par quels alibis est-ce que c'est passé, je vais vous le dire. En effet, dès qu'il y a eu cénobitisme, et le tout début du cénobitisme, c'est, je l'ai dit bien souvent, c'est l'institution du couvent en Égypte, du premier couvent, par Pacôme, par Saint Pacôme. Et il faut toujours rappeler, n'est-ce pas, la différence, la concomitance plutôt temporelle et historique et politique entre la constitution des premiers monastères et le passage du christianisme au pouvoir, c'est-à-dire au IVe siècle. Alors, dès qu'il y a eu cénobitisme, eh bien, les partisans du cénobitisme se sont mis à dénoncer les risques et les dangers de l'érémitisme, c'est-à-dire du fait de vivre seul. Seulement, ces risques et ces dangers ont naturellement été interprétés par la hiérarchie monastique à différents niveaux successifs. On a d'abord dénoncé dans l'anachorétisme, dans l'érémitisme, un risque psychique. On a dit, vivre seul, c'est la condition de l'anachorète ou de l'ermite, vivre seul comporte un risque, le risque d'un spleen terrible, de fantasmes nocturnes, bref, un très fort risque dépressif, de dépression. C'est cette dépression du moine, de l'ermite, de l'anachorète, que j'ai analysée dans la toute première figure, qui s'appelait l'acédie. Vient ensuite, comme alibi, un autre risque de la solitude, qui est le risque proprement pécamineux, c'est-à-dire qui emporte une notation de péché. En effet, vivre seul est noté et mal noté, parce que c'est noté comme comportant un risque d'infatuation du caractère, un risque d'amour-propre, d'orgueil, d'égoïsme, de paresse. Et à partir de l'horizon cénobitique, la solitude est affirmée comme une faiblesse. L'ermite est censé se soustraire, par manque de courage, au choc quotidien des volontés diverses, dit-on. Il ne peut supporter le fardeau des hommes de son espèce, bref, l'érémitisme est noté comme une lâcheté, alors qu'au contraire, la vie en commun, dans les couvents, est donnée comme une efficace de perfectionnement par ses difficultés mêmes. Parce qu'il est difficile de vivre ensemble, eh bien c'est pour cela qu'on demande aux moines de vivre ensemble, précisément parce que c'est difficile. Alors, suivent ensuite des risques qui ne sont plus des risques de l'érémitisme, n'est-ce pas, qui ne sont plus donnés directement du point de vue de la psyché, mais du point de vue de la société, c'est-à-dire de l'exigence d'intégration sociale qui est imposée à l'individu par la société en tant que loi naturelle. Toute société impose à l'individu de s'intégrer, et c'est par rapport à cette loi que l'érémitisme est mal jugé. En effet, premièrement, on dit, à partir toujours de l'horizon conventuel, cénobitique, on dit que l'ermite est voué à l'incommunication, à la non-communication. Or, vous le savez, le christianisme, surtout dans ces temps-là, c'est un espace d'écoute des fautes. Le christianisme, ça consiste à constituer un espace d'écoute des fautes. Je rappelle d'ailleurs à ce sujet que pendant très longtemps, la seule forme de confession qui ait été vécue, admise et vécue par le christianisme, a été la confession publique. Ce qu'on appelle la confession auriculaire, c'est-à-dire de bouche à oreille, dans le confessionnal par exemple, est une habitude beaucoup plus tardive. Or, l'ermite, dit-on, parce qu'il vit seul, ne peut pas communiquer à ses frères ses victoires et ses défaites, ou ses défaites. Donc, il est voué à l'incommunication. Une deuxième tare sociale qui est attachée à l'ermite, c'est l'excentricité, c'est-à-dire la subversion individuelle contre les normes de la vie sociale. Par exemple, au niveau de l'apparence physique, du corps, du vêtement, des cheveux, de la barbe, tout cela étant très réglementé dans les couvents, alors que l'ermite, tout seul, avait le droit de s'habiller comme il voulait. Au niveau de l'habitat, au niveau de la vie relationnelle et du genre de vie. Et effectivement, il faut ici rappeler certaines de ces « excentricités », entre guillemets, hein, parce que le mot est toujours suspect puisqu'il implique une norme, notamment dans l'ordre de la mortification, j'en ai déjà parlé. Je vous ai dit qu'en Syrie, au IVe siècle, il y avait eu une sorte d'explosion incroyable d'ascèse qui était conduite à un point extrême de rigueur et d'originalité, vous vous le rappelez. Il y avait, par exemple, tout ça était des moines solitaires, n'est-ce pas, des ermites, des anachorètes. Il y avait ce qu'on appelait les brouteurs, parce qu'ils ne se nourrissaient que d'herbes et de racines, les brouteurs. Il y avait aussi les dendrites. Todendron, c'est l'arbre en grec, parce que pour se rapprocher du ciel, ils nichaient dans des arbres. Il y avait les reclus qui s'enfermaient et ne communiquaient avec l'extérieur que par une galerie souterraine. Il y avait enfin les stationnaires. C'était des sujets, des individus qui certes vivaient dans le monde, mais sans jamais communiquer avec lui, qui étaient immobiles et muets comme des statues, qui restaient à jeun très longtemps, sans abri, dans une sorte d'état catatonique. Et une variété des stationnaires a été les stylites, c'est-à-dire ceux qui restaient des années et des années en haut, sur une plateforme, en haut d'une colonne. Alors, la condamnation latente et parfois explicite de l'érémitisme au nom du cénobitisme, c'est évidemment la condamnation que porte la société à l'égard de l'individualisme. Il y a en effet une tension séculaire entre, d'une part, la voix de la société comme communauté c'est-à-dire qui pose la nécessité de stimulants sociaux. La société passe son temps à imaginer et à ennoblir la nécessité de stimulants sociaux, comme par exemple, je ne sais pas, dans mon adolescence, il y avait un stimulant social qui était très requis dans les milieux bourgeois ou petites bourgeoisies, je ne sais plus ce qu'il en est maintenant, c'était le boy-scoutisme, n'est-ce pas ? Le boy-scoutisme, c'est une méthode de stimulants sociaux, n'est-ce pas ? C'est pour intégrer l'enfant. Lire sur moi, ça n'a pas eu grand effet, parce que une expérience plutôt malheureuse. Alors, il y a d'un côté la voix de la société en tant qu'appelant l'individu à s'intégrer en elle, et d'autre part, il y a la voix du mysticisme asocial et solipsiste. La société donc impose une loi d'intégration qui est mise en subversion précisément par l'érémitisme ou par sa version tempérée, à savoir l'idiorhythmie. Alors, vous comprenez maintenant quel est l'enjeu de tout cela. C'est que ce qui est condamné dans la marginalité, dans n'importe quelle marginalité, c'est en fait, ou ce qui est condamné dans le marginal, l'ermite, l'idiorhythmique, c'est en fait, je crois, le fou. Ce qui est condamné en lui, c'est le fou. La norme, c'est le commun et la communauté. Le fou est anormal, dit la normalité. Et peut-être n'y a-t-il pas d'autre définition du fou que celle-ci, sauf pour le paranoïaque, qui est un type de folie ambiguë, que pas d'autre définition du fou que celle-ci. Le fou serait celui qui est pur de tout pouvoir. C'est du moins ainsi que je le définirais. D'où immédiatement sa position exorbitante dans la société. Exorbitante parce que c'est une position neutre et que ce que la société tolère le moins, c'est le neutre. Le fou n'est ni pour ni contre le pouvoir. Il veut se maintenir en dehors, ce qui est intenable. D'où intense tension sociale provoquée par le fou ou le marginal. Alors, c'est pour ça qu'à partir de là, n'est-ce pas, on peut comprendre que la fondation du premier couvent par saint Pacôme a représenté, effectivement, je le crois, un moment capital et décisif. C'est le moment où la folie chrétienne, la folie religieuse, en tant que folie individuelle, a été récupérée par la loi, par la communauté, par le moyen de la suggestion des fous, les martyrs, les premiers moines, les premiers ermites, à un chef. Bref, par la soumission à ce que Nietzsche appellerait la grégarité. Alors, cela dit, la marge est cependant tolérée, comme je l'ai dit, à titre d'abcès de fixation, mais à condition d'être contrôlée par la société, c'est-à-dire codée par elle. La société supporte très bien des marginalités, il y en a aujourd'hui, à condition qu'elle puisse les coder, les contrôler. Par exemple, il y a eu un codage progressif de l'érémitisme en Occident. Jusqu'à la fin du Xe siècle, l'ermite peut être proche d'un couvent, mais il reste distinct de ce couvent. Et puis, peu à peu, au XIe ou XIIe siècle, l'érémitisme est devenu cénobitique et clérical. C'est la solitude de l'Oriot, de l'Athos ou la solitude des Chartreux, qui sont, disons, des ermites intégrés dans un couvent. Enfin, au XIIIe siècle, l'intégration des ermites est consommée en Occident par exemple, la création de l'ordre des ermites de Saint-Augustin, qui est une sorte d'érémitisme communautaire, au besoin, n'est-ce pas, déniant le principe même de l'érémitisme, au besoin sans solitude. Et le désert, cette réalité à la fois pratique et mystique, si fondamentale dans la vie de l'ermite, est remplacé alors, dans le couvent, par la pratique du silence. Le désert devient simplement rester silencieux dans le couvent. Alors, d'une manière générale, l'érémitisme occidental a été tout de suite très, très intégré. C'est un érémitisme sociable et social, et on appelle ça d'ailleurs les œuvres de la miséricorde érémitique et de la civilité, n'est-ce pas ? Humanitas hospitalitatis. Alors, la société à ce moment-là peut très bien surveiller la marge, d'abord parce qu'elle dispose les ermitages autour des abbayes, et elle met les ermites sous la dépendance de l'abbé, ce qui est la négation même de l'idiorythmie initiale, qui était définitionnellement hors pouvoir, mais la société, à ce moment-là, la société ecclésiale, réussit parfaitement à contrôler l'ermite ou l'idiorythmique par ces deux valeurs qu'elle impose aux moines, qui font partie du statut fondamental du moine, l'obéissance et la stabilité, qui sont des valeurs essentielles d'intégration. Alors, il faudrait évidemment joindre à ce dossier des marginalités et du jeu des marginalités entre elles, tout le dossier immense de la répression sociale exercée sur les marginalités. Répression légale des anormalités, drogue, démence, etc. Et quand la loi ne le permet pas directement, répression policière. C'est un fait connu que lorsque, à la suite de l'exemple américain, des communautés post-hippies, disons para-hippies, ont essayé de se constituer en France après 68 dans des lieux, des fermes ou des villages abandonnés de régions déshéritées de la France, eh bien, ces petites communautés avaient beaucoup de mal à trouver un endroit où s'installer, alors qu'aucune loi n'aurait dû les en empêcher, parce que, par exemple, les préfets refusaient de donner à ces gens-là la liste des villages abandonnés. Ou bien que, parce qu'une fois qu'ils étaient rassemblés une vingtaine dans une ferme abandonnée, en essayant de constituer une petite communauté, il y avait fréquemment des descentes de police. Voilà pour la marginalité, qui est donc un dossier uniquement ouvert, entre-ouvert même seulement. Alors, j'en viens maintenant à une figure un peu plus abstraite encore. Mais mercredi prochain, nous aurons une figure très concrète, parce que nous allons parler mercredi prochain de la nourriture. Mais il faut attendre mercredi, n'est-ce pas ? Bon, alors ici, ce dont je voudrais parler, je suis obligé d'employer un mot grec, le mot grec qui désigne le statut du solitaire, de celui qui vit en état de solitude, c'est la monosis, M-O-N-O-S-I-S, n'est-ce pas, même qu'il y a mathésis, sémiosis, etc., mimésis, bien, il y a monosis. Il faudrait presque faire ici un petit peu d'étymologie, et puisque je n'ai personne derrière moi, je vais le faire. Enfin, ceci est purement digressif, c'est en raison de mon goût personnel pour les étymologies. Moine, en français, vient d'une forme latine fautive qui est monicus, monicus. Mais cette forme monicus vient, c'est une forme altérée de la vraie forme qui est monacus. Pas en grec, monakos. Monakos, je ne sais pas où est l'accent. Parce que de mon temps, on ne faisait pas de thème grec et donc on ne savait pas où étaient les accents. Alors, monakos a donné par exemple l'italien Monaco, tandis que monicus, c'est-à-dire la forme altérée, a donné donc moine, et puis l'allemand Münch, et l'ancien provençal Monge, comme la rue. Voilà donc le champ du mot moine. Monakos en grec est Monakos en grec et donc Monacus en latin, ça veut dire très exactement le solitaire, c'est-à-dire celui qui vit seul, c'est-à-dire très précisément, c'est pour ça que je vous raconte tout ça, celui qui vit sans famille. Hein. C'est pas n'importe quel sens du mot seul ou solitaire, c'est celui qui vit sans famille. Et par suite, vous pouvez comprendre que la monosis, c'est l'état ou le système de vivre non marié. Célibataire, non marié. Monakos, la vraie traduction, ça serait pas moine, ça serait célibataire. De vivre non marié, c'est-à-dire, selon la métaphore biblique, évangélique, les reins saints. Les reins saints, c'est-à-dire voués à la continence. Nous avons vu la symbolique de la ceinture, n'est-ce pas, qui est le symbole de la virilité, mais de la virilité contrôlée. Alors, Monakos, ça renvoie à un type d'ascète qui renonce à la vie conjugale. Alors, ça pose l'immense problème du « un » opposé au « deux ». Je ne veux pas entrer, bien sûr, dans cet immense dossier du « un » et du « deux » qui irait pour nous dans le murmure de la modernité et même de la mode qui irait de Lacan à Mao, par exemple, n'est-ce pas, le 1 et le 2. Mais je voudrais simplement rappeler l'idéologie latente qui est impliquée par la structure des langues. C'est le thème du pouvoir de la langue, des rubriques obligatoires qui sont dans la langue. Or, si nous interrogeons précisément ce problème-là du point de vue des langues, nous voyons que pour nous, dans notre langue, le français, nous ne disposons que de l'opposition entre un et plusieurs, n'est-ce pas, singulier et pluriel. Mais comme vous le savez, dans bien des langues, il y avait une opposition tripartite entre un, deux, plusieurs. C'est-à-dire qu'il y avait un genre grammatical, en grec par exemple, qui s'appelait le duel. Chaque fois qu'on devait manier deux objets associés, on disposait du duel. Alors, ce duel, on peut dire d'une façon très rationnelle que ça provient d'une évidence anatomique et corporelle. Le corps humain comporte des paires d'organes. Les yeux, les oreilles, les bras, les jambes, les mains, les testicules. Autrement dit, le corps lui-même nous propose et nous impose l'image d'une unité naturelle du deux. Le deux est un. Voilà ce que nous dit le corps. Et ce deux qui est un au niveau du corps, puisque le corps est unique, et a été mis en scène par le mythe de l'androgyne dans le Banquet de Platon, mythe qui décrit longuement les opérations douloureuses de séparation des doubles paires d'organes. Alors, le sens de ceci, c'est que le un, c'est-à-dire le corps unique, est lui-même virtuellement divisé, et que le thème fondamental à la fois du corps et de la langue, de ces langues-là en tout cas, c'est la paire. C'est la paire. D'où la dialectique incessante entre, d'une part, la division virtuelle de l'un, le corps se divise en paires, et d'autre part, la reconstitution de la paire communité à travers la fusion d'amour, comme on voit dans des mots comme la pariade des oiseaux, par exemple. C'est reconstituer une paire, n'est-ce pas, que de s'accoupler au niveau des oiseaux, c'est la pariade, ou bien appareiller un sujet à un autre, etc. Alors, cette dialectique est faite de ces deux mouvements qui sont visibles dans la langue. L'un est fait de deux. Le deux est une unité. Il faut toujours se tenir dans l'oscillation de ces deux énonciations. Un mot maintenant sur le désir du « deux ». Ce serait évidemment à ouvrir là le dossier du désir amoureux, le désir de l'union, le désir de la fusion amoureuse. Je pense que j'en ai parlé dans un séminaire précédent, Hautes études. Je voudrais marquer seulement ceci, que dans cette optique-là, le 1 est noté comme une punition. Condamné à n'être qu'un, c'est être puni pour quelque chose. Et justement, l'un des personnages de notre corpus, à savoir Robinson Crusoe, exprime sans cesse cette croyance. Il pense qu'en étant condamné à vivre seul sur une île déserte, il paye les fautes de sa jeunesse, et principalement la rébellion contre son père et sa mère, qui lui avaient interdit de s'embarquer. Et après le naufrage, lorsqu'il fait le bilan de sa situation et qu'il constate qu'il est seul sur cette île, complètement seul, alors il fait éclater le désir du « deux ». Il fait exploser le désir du « deux », d'être « deux ». Aucun homme ait été sauvé, aucun seul homme ait été sauvé. Et ensuite, quand il y a l'épisode de la découverte de la trace des pas humains sur la plage, tout est dès lors, n'est-ce pas, à ce moment-là, articulé par ce qu'on peut appeler véritablement le suspense de la découverte d'un autre homme. Ce que j'en profiterai pour énoncer ainsi, qui est valable peut-être pour chacun d'entre nous, deux est le suspense de un. Deux est le suspens de un. Un est gros de deux. Un attend deux. Et deux est le suspens, le suspense. Le mythe d'Adam. Car d'abord, Adam, c'est bien connu, a été créé seul. Adam est un. Il est, en grec, il est aïs. Aïs, un. Mais la création d'Ève n'est en fait que l'actualisation, la matérialisation de la dualité latente qui est tout de suite en lui. Et on retrouve ici, justement, le schéma de l'androgyne. Seulement, dans l'Aristophane du banquet, chez Aristophane du banquet, la scission de l'un est douloureuse, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, quand l'androgyne est séparé en deux, c'est très douloureux, parce que c'est une punition que Zeus impose aux androgynes à cause de l'arrogance de leur bonheur. Quand l'androgyne était tellement heureux que l'arrogance de ce bonheur a été insupportable à Zeus, et Zeus a voulu rabaisser cette arrogance en divisant, vous vous le rappelez, l'androgyne en deux comme des cornichons, comme des œufs ou des corniches, des cornes, une sorte de cornichons. Donc le bonheur, c'est le un en tant qu'il est composé, c'est-à-dire en tant qu'il est fait d'une paire. Ce n'est pas le un en soi, toute mon argumentation repose là-dessus, si vous voulez. C'est le un en tant qu'il est composé. Évidemment, dans la Genèse judéo-chrétienne, la faute est reportée après la division. C'est seulement après la division d'Adam en Adam et Ève qu'il y a faute et qu'il y a malheur, bien que la faute vienne aussi de la division, puisqu'elle vient d'Ève, au moment de la tentation par le serpent. Par conséquent, ce n'est pas tellement un et deux qu'il faut opposer mythiquement, c'est, je dirais, un composé ou un intégré et un divisé. D'où l'éloge du un, de ce un composé, qui est dans toute la patristique, pour en revenir aux moines. La monosis, c'est le mouvement par lequel le sujet, c'est-à-dire le moine, va mimer la condition d'Adam avant le déchirement en deux. C'est pas ? La condition du moine, c'est de retrouver la solitude d'Adam. C'est-à-dire, je le répète, une solitude qui est virtuellement grosse du deux. Monakos, par conséquent, ce n'est pas seulement être célibataire, c'est d'abord et d'une façon très littérale être célibataire, mais c'est aussi, Monakos, avoir une vie orientée vers une seule fin, tourner toute sa vie vers une seule fin, un seul but, un seul investissement. Le moine, à ce moment-là, Monakos, est dit monotropos, monotropos, n'est-ce pas, tropein, se tourner vers. Et la monotropie, je crois que c'est une notion importante, ça consiste à investir tout soi-même dans un seul objet. Nous dirions aujourd'hui que c'est une forme de manie. Et ça tombe bien, puisque précisément dans la description du sentiment amoureux par Platon, dans le Banquet notamment, et dans le Phèdre, le sentiment amoureux est assimilé à un délire monomaniaque, et la vraie traduction de amour, passion, en grec, ça ne serait pas du tout eros, ça serait mania, la manie, c'est-à-dire l'être fou, n'est-ce pas ? Être fou parce qu'on n'investit que dans un seul objet. Alors, par rapport à cela, le monde, par rapport à ce fantasme d'unité composée, d'unité non déchirée, le mondain, c'est évidemment l'espace du partage, du mélange, du deux divisé, ou du un divisé en deux, si vous voulez. Par exemple, celui qui est marié, n'est-ce pas, celui qui est dans le mariage, il est dit partagé, il est dit tiraillé. Tandis que le moine, Monakos, le célibataire, lui est dans le monde du non partagé, du pur, du sans mélange. C'est un être sans tiraillement. Tandis que l'être marié est un être tiraillé. Alors, en fait, l'opposition, c'est entre le moine sans tiraillement et le marié tiraillé. Et cette opposition se retrouve dans deux notions qui ont été mises en paradigme dans la langue, dans le grec patristique. C'est d'une part aplotès, c'est un substantif, aplotès, qui veut dire la simplicité, c'est-à-dire la non-division, le non-tiraillement, la rectitude, l'expérience de l'un composé, de l'un intégré. Et alors en face, il y a le terme adverse, qui est un terme nocif, qui est la dipsukia, dipsukia, qui est l'état de celui qui a l'âme double, l'âme partagée, l'âme tiraillée, qui connaît l'hésitation, le doute. N'est-ce pas ? Dans le grec de la Bible, psyché, ça veut dire le cœur, c'est-à-dire l'âme affective. Alors, vous avez exactement le même paradigme dans une autre opposition importante de l'époque, qui est l'opposition entre bios praktikos, la vie pratique, enfin c'est très mal traduit bien sûr, et bios theoretikos, la vie théorique, ça va pas du tout, je vais expliquer. Hein. Bios praktikos, je doute qu'il faille mettre ces remarques sur pratique et théorique dans les copies d'agrégation de philosophie qui se préparent sur ce sujet, n'est-ce pas ? Ce serait peut-être dangereux. Mais disons que dans le champ de la patristique, la vie pratique, bios praktikos, ça renvoie à une activité politique et sociale, aux devoirs politiques et sociaux, sans que ça soit d'ailleurs forcément péjoratif, n'est-ce pas ? Parce que c'est une notion qui était valorisée, la présence sociale et politique dans le monde était valorisée par exemple par les stoïciens. Et alors en face, il y a la bios theoretikos, qui est la vie contemplative, la vie unifiée, sans tiraillement, sans lutte, qui, nous dit-on, est surtout bonne dans la vieillesse, après une période de bios praktikos, c'est la retraite. Alors ceci, ça veut dire tout simplement l'opposition du mélangé et du pur. La bios praktikos, c'est la vie mélangée, la vie mixte, la vie tiraillée. Par exemple, un personnage biblique, qui est l'exemple même de la bios praktikos, c'est-à-dire d'une vie tiraillée, pleine de doutes, d'hésitation, c'est Joseph, le Joseph de la Bible, de l'Ancien Testament, hein? Pas le Joseph du Nouveau Testament, bien sûr, Joseph de l'Ancien Testament, qui est un homme irrésolu, tiraillé, qui est comparable à quelqu'un de vêtu d'une tunique bigarrée, au tissu disparate et compliqué, ce qu'on appelle en grec « poikilos », et qui est opposé à celui qui vit dans le désert, dans un lieu de calme et d'une activité sans mélange, d'une solitude paisible, qui est donc l'homme de la bios theoreticos. Alors ce rêve de bios theoreticos, c'est-à-dire de vie retirée de la responsabilité sociale et politique, donc d'une vie sans tiraillement, n'est pas du tout quelque chose d'anachronique, d'ancien. C'est une chose qu'on peut vérifier tous les jours, ce rêve, dans bien des fantasmes d'aujourd'hui, dans bien des mythes, qu'on peut même surprendre parfois en soi-même, n'est-ce pas ? Et je dirais qu'en tout cas, on le trouve chez précisément certains habitants de ces communautés qui ont essayé de s'édifier en France comme ça vers 1972, et dont il ne reste plus grand-chose, mais il y a eu là une expérience, n'est-ce pas, de communauté non religieuse. Eh bien, l'un de ces communards, comme on dit, interviewé, qui participait à je ne sais quelle ferme communautaire en Ardèche, par exemple, interviewé, a répondu, pour justifier précisément le vivre ensemble à la campagne, il a fait une réponse qui est en fait une réponse de moine, n'est-ce pas, et une réponse de bios theoreticos. Il a dit... Ce qu'il faut, c'est une vie douce, sans bruit, où ça ne grince pas toute la journée. C'est pas ce qui est la définition exacte de aplotès, de bios theoreticos. C'est le rêve d'Adam, finalement. Car le 1 de Monakos, c'est-à-dire de l'anachorète, est un 1 composé qui garde en lui la virtualité du 2, comme le 1 d'Adam. L'anachorète qui est en état de retraite absolue, donc du point de vue du monde qui est en état de solitude absolue, eh bien en fait, il s'agit d'une retraite amoureuse, d'une retraite duelle. Ainsi, Cassien, parlant d'un anachorète célèbre d'Égypte qui s'appelait Paphnus, dont Anatole France l'a pris comme héros de Thaïs, n'est-ce pas, de son roman Thaïs, Cassien disait de Paphnus que Paphnus voulait vivre seul pour s'unir plus sûrement au maître auquel il brûlait de s'attacher inséparablement. Donc c'était bien le 2 qui était présent dans ce 1. Je dirais comme si l'homme s'activait par des substituts de sublimation à reconstituer le duel, la paire dans l'un. Car comme le disent le corps et la grammaire, la véritable unité est toujours duelle. Alors, cette figure, je terminerai là-dessus, cette figure, elle a pour moi le sens d'une recherche, bien sûr, d'une question, d'une hypothèse, c'est-à-dire de quelque chose que je devine très vaguement, sans pouvoir encore le pousser à fond. Ce quelque chose est ceci. Ce qui s'oppose, c'est-à-dire ce qui fait sens, ce n'est pas tellement un et deux, mais plutôt... un intégré, un composé, un intégré et un désintégré, dissocié, divisé, tiraillé. D'où ces deux remarques, je pense que la notion de tiraillement, dit psychia, est fondamentale. Il renvoie à ce sentiment existentiel d'affolement que chacun de nous, ou tout au moins que certains d'entre nous, peuvent ressentir devant une situation ou un type de vie dans laquelle je me sens requis de me soumettre à des ordres contraires. C'est ça le tiraillement. C'est si je reçois en même temps et de deux instances égales des ordres contraires. Or, vous savez, je crois que j'en ai parlé déjà, c'est une situation qui est dite comme typiquement pré-psychotique. C'est le problème qu'on appelle dans la littérature psychologique anglo-saxonne le problème du double bind, de la double contrainte, de la double entrave, qui se résumerait dans cette formule, donné par Bruno Bettelheim, pile, je gagne, face, tu perds. Pile, je gagne, face, tu perds. C'est le double bind. Or, c'est la situation mondaine en général. Il me semble que, très souvent, chacun d'entre nous est requis dans le monde actuel, tumultueusement, avec arrogance, de se soumettre ou d'assumer des responsabilités contradictoires. Il est donc le contraire même d'aplotès. Il ne dispose pas de l'esukia. L'esukia, qui serait un état intégré, l'état d'une unité intégrée, disons une sorte de degré zéro des responsabilités, une disponibilité non tiraillée, qui est en somme l'enjeu de la monosis. La deuxième remarque que je voudrais donner pour terminer cette figure, c'est que méthodologiquement, je serais enclin à ne pas considérer 1 et 2 comme pourvus d'attributs. La vraie opposition, c'est entre la paix et le tiraillement. Et il vaut mieux considérer 1 et 2 plutôt comme des métaphores d'états fondamentaux. Un renverrait à un sujet sans instance, qui a intégré absolument la loi, c'est-à-dire qui est dans l'état mystique, et deux renverrait à un sujet à la fois soumis et rebelle, qui serait en proie à la longue et très dure histoire du refoulement. Voilà pour la monosis, il me reste 10 minutes, je vais en tout cas amorcer la troisième figure d'aujourd'hui, avant la nourriture, qui parle des noms, les noms au pluriel, les noms. Alors, cette figure vise à ouvrir le dossier des noms propres dans un espace de vivre ensemble. Le problème des noms propres, que nous appelons les noms propres, dans un espace de vivre ensemble. Alors, je vais donner seulement 3 points de repère ou de départ, simplement marquer, comme toujours, des avenues qui partent, c'est tout. Tout d'abord, le problème des surnoms. Les surnoms. Vous savez que c'est un vaste problème d'ethnologie historique, puisqu'en réalité, nos noms de famille, dans notre civilisation à nous, sont ou bien d'anciens noms de lieux, c'est le cas de mon nom de famille à moi, n'est-ce pas, qui renvoie à, dans une langue pré-latine, celto-ibère, je suppose, à ces prairies inondées périodiquement par des fleuves dans le sud-ouest de la France, n'est-ce pas, qu'on appelle des Barthes. Ce qui fait que, on pouvait lire dans mon enfance, dans des journaux locaux de cette région, de la Gascogne, des entrefilés journalistiques intitulés « La grande misère des Barthes ». Puisque quand ces prairies ne sont pas inondées régulièrement, elles ne fournissent pas le foin nécessaire aux bestiaux. Donc, nos noms de famille ont pour origine ou bien des noms de lieux, ou bien, vous le savez, des surnoms issus de métiers ou de caractéristiques physiques. Dans la civilisation chrétienne, le mécanisme d'onomatogenèse semble le suivant. N'est-ce pas, les noms de famille en France, enfin en tout cas dans l'Occident gallican, gaulois, ça date à peu près du XIIe siècle, n'est-ce pas, je crois. Avant, il n'y avait que des prénoms chrétiens, enfin des noms de baptême chrétiens. Alors, le mécanisme de création des noms de famille est le suivant. À l'intérieur d'une très petite communauté, par exemple une famille, les prénoms ont peu de chances de se répéter dans une famille. Et donc, chacun est distinctif et pertinent. Dans une famille au plan des collatéraux, par exemple des frères, jamais le même prénom. Enfin, on ne donne jamais 2 fois le même prénom à des frères, enfin, à l'intérieur d'une famille. Par conséquent, une famille, ça constitue très exactement un paradigme onomastique, puisqu'il n'y a pas de répétition. Deuxièmement, lorsque la communauté s'élargit et tourne soit à la petite tribu, soit au village, il devient évidemment nécessaire de distinguer les porteurs d'un même prénom, d'où l'adjonction d'un surnom qui va devenir ensuite nom de famille. S'il y a deux gens, par exemple, dans le même village ou dans le même groupe, pas dans la même famille, c'est impossible. Mais dans une famille de ses alliés, par exemple, s'il y a deux sujets qui se prénomment Jean, eh bien on dira Jean celui qui est brun, Jean le brun, ou Jean celui qui est blond, Jean le blond. Ou bien s'il y a deux Henri, on dira Henri celui qui est forgeron, c'est-à-dire Henri Lefebvre, ou bien Henri celui qui est paysan, Henri païen. Alors, vous notez bien le décrochage du procédé. Sur un nom de famille commun à un groupe, il y a production spontanée de second surnom différenciant. Il y a eu un film qui était très célèbre avant la guerre, qui s'appelait Goupil Main Rouge, et Goupil, pas Main Rouge, et on voyait toute une espèce de tribu familiale villageoise, qui avait pour nom de famille les Goupil, mais alors on distinguait chaque Goupil par une sorte de surnom. Il y avait Goupil Main Rouge, il y avait Goupil Tonquin, parce que le type revenait du Tonquin, etc. De même, je dirais, c'est presque la même chose dans Proust avec les Guermantes. Il y a Guermantes le duc, Guermantes le prince, etc. Alors, dans ce processus, il y a la trace du problème fondamental de la langue, qui est le shifter, c'est-à-dire l'existence d'unités qui ne reçoivent de sens que dans la situation où elles sont proférées. N'est-ce pas ? Dans la langue, il y a des unités qui, certes, peuvent se figurer au dictionnaire, mais le dictionnaire ne vous en donnera jamais le sens en soi, parce que ce sens ne provient que de la situation dans laquelle vous proférez cette unité. C'est le cas du pronom personnel « je ». « Je » ne peut pas se définir autrement que par « celui qui dit je », ou c'est le cas de mots d'autres shifters, vous le savez, comme « ici » ou « maintenant », qui ne peuvent se comprendre que par rapport à la situation du locuteur. Eh bien, quand je dis « Jean » à l'intérieur de l'espace familial, c'est un shifter, parce que cela ne renvoie pas à une essence lexicale, à une sémantème, il n'y a pas une « jeanité », mais à une pertinence qui dépend entièrement de la situation contexte. Et si je sors de contexte, qui est alors la famille, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la famille, je comprends tout de suite de quel Jean il s'agit. Je comprends qui est Jean. Je donne un sens au mot Jean. Mais si je sors de ce contexte, je suis perdu. J'avais signalé dans un autre séminaire, je l'ai même raconté dans un petit livre, le cas d'une carte postale que je reçois et qui est signée, qui dit, sans aucune indication de date, « Je rentre demain, signé Jean-François. » Or, il peut se trouver que je connaisse 5 ou 6 Jean-François. Alors, comment est-ce que je vais repérer ? Eh bien, je dirais que même dans les groupes d'amis, à ce moment-là, nous pouvons à tout instant surprendre le mécanisme par lequel le nom de famille va se constituer. Si je connais, par exemple, 2 Jean-François, alors je dirais « Jean-François, mais lequel ?» On me dira « mais celui qui fait ses études de médecine, c'est-à-dire le médecin. » Et donc, un peu plus loin, ce Jean-François s'appellerait de son nom de famille Jean-François médecin. Et il aurait un nom de famille. Donc, lorsque nous allons vers le surnom nom de famille, il est évident que nous déchifterisons la langue. Nous allons vers le dictionnaire, n'est-ce pas ? Le dictionnaire qui est cet appareil, qui est le contraire même du shifter. Nous allons loin du shifter, nous allons vers le dictionnaire, et le dictionnaire de nom propre, ça existe, c'est le bottin, c'est l'annuaire. Autrement dit, nous dépragmatisons la langue et nous refoulons la situation, l'existence. vous savez très bien qu'il y a un rapport existentiel aujourd'hui entre les listes de noms de famille et le thème de la bureaucratie en ce qu'elle est oppressive, n'est-ce pas ? C'est toujours, je reçois personnellement, en quoi j'ai tort certainement, c'est une sensibilité mal placée, mais je reçois toujours comme une petite agression de recevoir une lettre avec la suscription Barthes Roland. C'est-à-dire que je suis classé, je suis fiché par mon nom de famille, qui est un nom qui n'est pas un shifter, n'est-ce pas ? Tandis que Roland est un shifter, c'est-à-dire que Roland n'a de sens que dans un groupe existentialisé qui est celui de ma famille ou de mes amis. Pas ? Tandis que Barthes, eh bien, effectivement, c'est, je dirais, de la très bonne pâture pour la bureaucratie. C'est-à-dire, ça peut aller dans des listes des ordinateurs, etc. Alors, dans notre corpus, il y a une trace de ce problème dans la montagne magique. Vous savez que c'est une communauté en sanatorium de gens qui se voient souvent, mais qui ne se connaissent pas très bien et qui, en tout cas pendant un certain temps, ne connaissent pas leur nom de famille, leur nom civil. Et d'où, on voit, Thomas Mann a très bien mis ça en scène, on voit monter progressivement un trait connu de telle personne en surnom. Par exemple, à un moment, au début, on nous dit, bien qu'elle ait un nom de famille, Madame Magnus, celle-là même qui perdait de l'albumine. Eh bien, celle-là même qui perdait de l'albumine, petit à petit, on mettra des tirets, celle-là même qui, etc., avec des tirets, ça fera un syntagme figé, et aussi bien à la fin, on l'appellera, par exemple, Madame Albumine. C'est là un procédé épique qui est le propre au récit. Dans Homère, Athéna, c'est ce qu'on appelle les épithètes de nature, n'est-ce pas ? Athéna, c'est la déesse aux yeux pairs. C'est le même procédé. Ou bien les noms d'Indiens, œil de lynx, ou le nom des dieux multiples de la religion taoïste. Je vous en donne quelques-uns. Par exemple, le dieu des cheveux, parce que dans le corps Tao, il y a des milliers de petits dieux qui sont attachés à des organes. Et il y a un dieu des cheveux qui s'appelle Fleur des signes mystérieux. Il y a un dieu des yeux qui s'appelle Inspecteur du vide. Eh bien, on pourrait dire que peut-être là, il y a une piste de recherche qui serait la liaison du surnom et du récit. Alors, toujours dans la montagne magique, il y a un vrai surnom. Il y a une dame mexicaine, très tragique d'aspect, qu'on appelle Madame Tous les Deux, avec des tirets, n'est-ce pas ? Madame Tous les Deux. Eh bien, hélas, c'est parce qu'un de ses fils est mourant et que l'autre, en venant voir son frère, est tombée gravement tuberculeuse. Et elle ne sait que dire, chaque fois qu'on la rencontre, tous les deux, croyez-vous, monsieur, tous les deux. Et cette lugubre formule est devenue son surnom. C'est Madame Tous les Deux. Voilà pour les surnoms. Je suis obligé d'interrompre la figure en son milieu, avant la nourriture. Donc, à mercredi prochain.